Voix Nue. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, prendre soin de nos désirs.
Bonsoir Bernard Stiegler.
Bonsoir.
Nous voilà arrivés à notre dernier entretien. Jusqu'ici, nous avons discuté de vos origines, des expériences qui vous ont forgé intellectuellement, des idées que vous défendez. On a vu aussi quelle était votre méthode pour analyser les phénomènes qui vous préoccupent. Parlons à présent de là où vous en êtes. Actuellement, vous présidez l'association Ars Industrialis, vous dirigez l'Institut de Recherche et d'Innovation au Centre Georges Pompidou. Vous enseignez aussi à Londres, à l'UTC, à Compiègne. Vous avez par ailleurs fondé pendant plusieurs étés une école éphémère ici au Moulin, à Épinal-le-Fleuriel. Vous consacrez une grande partie de votre temps et de votre énergie pour les autres et pour avec les autres. Construire une société fondée sur des principes collaboratifs, du travail contributif, des savoirs et des compétences partagées. Vous avez largement développé ces principes dans vos écrits, donc beaucoup de théories, mais concrètement, que faites-vous pour mettre en œuvre ces idées avec Ars Industrialis, par exemple avec la pleine commune dont vous parliez hier?
Si vous voulez, moi je crois que toute activité de la pensée doit être expérimentale d'une manière ou d'une autre. Un peintre, par exemple, qui crée des œuvres d'art, il expérimente. La création, c'est un processus d'expérimentation. Un mathématicien qui résout des équations, il travaille avec un matériau très formel, mais voilà. Je pense que l'expérimentation est absolument capitale. Et je pense aussi que le fait que la philosophie n'expérimente plus, c'est quelque chose de tout à fait récent. D'abord parce que pendant très longtemps, les philosophes étaient des physiciens, des géographes. Immanuel Kant, il était prof de géographie, pas simplement de philosophie. Ces gens fabriquaient des machines. Pascal ou Leibniz, par exemple, sont à l'origine de la machine à calculer. Ils ont fabriqué la pascaline ou la machine à calculer de Leibniz, qui est à l'origine de la théorie de l'informatique, quand même. Et jusque pratiquement à la fin du 19e siècle, les philosophes sont tous engagés dans ces processus, et ce n'est qu'au XXe siècle que la philosophie va se séparer, comme d'ailleurs toutes les disciplines vont toutes se spécialiser. Bon. Et je pense que c'est une catastrophe. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être spécialisé, il faut être spécialisé, mais il faut avoir un champ de généralisation et un territoire de travail commun avec... Moi, je ne peux pas travailler sans mathématicien, sans physicien, sans biologiste, sans chimiste, etc. C'est pas possible. Les sujets dont je parle, si j'en parle sans travailler avec ces disciplines-là, je vais vers la sophistique, inévitablement, sans le vouloir. Donc, et c'est un fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être comme à l'époque de Kant, maîtriser la physique, Kant a fait une théorie astrophysique, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Je vous recommande de lire les textes de Kant au milieu du XVIIIe siècle, c'est hallucinant de puissance, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus possible.
Ça. Dans l'état actuel de la recherche, tout est très cloisonné, très spécifique, ce qui génère un problème de communication, de compréhension entre les disciplines,
oui,
qui sont par ailleurs étroitement liées parfois dans un champ...
Oui, mais ça, c'est pas une fatalité. On peut changer ça. Je veux pas dire qu'il faut se déspécialiser. Je veux dire par là qu'on peut créer les conditions de collaboration entre des équipes. Voilà. Et ça, c'est la question de demain. Voilà. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'elle est posée, hein, l'organisation transdisciplinaire ou interdisciplinaire, une question qu'on se pose énormément. En France, on a un mal de chien à créer cela. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis ou en Angleterre qu'en France, par exemple. Quoi qu'il en soit, moi je ne peux pas travailler dans des contextes comme ça monodisciplinaires, je pense que c'est toxique en fait complètement, c'est asphyxiant. Moi j'étouffe dans un truc monodisciplinaire complètement. Ça conduit d'ailleurs toujours à ce que vous avez des spécialistes de Hegel, de Platon, de Nietzsche, etc. Mais ils sont incapables de vous parler du temps contemporain, donc c'est quand même un problème, voilà. Et je pense qu'il faut expérimenter. Alors par ailleurs, pour moi la philosophie ça a toujours été un terrain, je dirais, de élaboration d'une citoyenneté. La philosophie est née dans la polis grecque, c'est pas pour rien. D'ailleurs, le petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle Passer à l'acte, se réfère énormément à Socrate. Socrate, ce qui définit sa position, c'est la citoyenneté. Il se considère pas comme un philosophe, il se considère avant tout comme un citoyen qui veut être radicalement un citoyen. Voilà. Il dit la cité, c'est ce qui développe des savoirs. Elle a besoin de savoir pour se déployer, parce qu'elle doit prendre des décisions en permanence. Et pour moi, la philosophie qui n'est pas fondamentalement engagée dans les problèmes de la cité, y compris lorsqu'elle est devenue la biosphère avec 8 milliards d'habitants bientôt, eh bien, c'est pas de la philosophie. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai créé avec Caroline, mon épouse, Caroline Stigler, il y a 15 ans, l'association Ars Industrialis, et avec des amis, à l'époque, que je ne vois plus beaucoup maintenant, et nous avons ensuite développé toutes sortes de choses. Nous avons créé une école. Nous avons créé une école ouverte à tout le monde, qui était un cours d'introduction à Platon. Je n'enseignais que Platon, parce que si on veut étudier la philosophie, il faut d'abord connaître Platon, ça c'est fondamental. Mais nous avons aussi créé un séminaire qui est devenu une espèce de, comment dire, école doctorale. Ce sont souvent des doctorants ou des post-doctorants, qui sont eux plutôt des professionnels de la philosophie. Mais il n'y a pas que des philosophes, il y a aussi des gens qui font l'histoire des sciences, des mathématiques, des biologistes, etc. Et nous essayons de construire des concepts expérimentables. Et c'est comme ça que nous avons pratiqué pas mal d'expériences. J'ai toujours fait de l'expérimentation. Il se trouve qu'il y a quelques années, donc, un élu qui s'appelle Patrick Brazet, qui était le président de Pleine Commune, qui est une communauté de 9 communes en Seine-Saint-Denis, m'a proposé d'expérimenter les idées que je développais avec ce groupe Ars Industrialis, tournant autour de l'économie contributive. Qu'est-ce qu'est une économie contributive? C'est une économie qui, premièrement, acte que l'emploi baisse et va continuer à baisser de plus en plus. Étant donné qu'il y aura de moins en moins d'emplois, il y aura de moins en moins de redistribution de pouvoir d'achat via l'emploi, et du coup, il y a un problème de solvabilité du marché, parce que s'il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins d'acheteurs, et les marchés sont saturés. Et donc, il y a un risque de surproduction. Conséquence, il faut redistribuer par d'autres voies que l'emploi, et nous pensons qu'il faut distribuer via un travail qui se fait hors emploi, et sur le modèle des intermittents du spectacle. Les intermittents du spectacle étant des gens qui, quand ils ne sont pas employés, ils sont pas en contrat avec un producteur, eh bien, travaillent beaucoup. Parce que s'ils ne travaillent pas pendant qu'ils sont pas employés, ils ne seront pas à nouveau employés. Ils ont besoin d'être très créatifs. Donc, et je connais très bien, j'en ai formé des intermittents, je dirigeais Inaformation. La moitié des clients d'Inaformation, c'est des intermittents du spectacle. Ensuite, j'ai dirigé l'IRCA, mais j'employais beaucoup d'intermittents du spectacle. Et mon fils, Julien Stigler, est un intermittent du spectacle depuis des années. C'est un monde que je connais bien. Et les intermittents du spectacle, un sociologue italien qui s'appelle Maurizio Lazzarato, avec une économiste italienne, qui s'appelle Antonella Corsani, et ils ont montré qu'ils travaillent plus quand ils sont pas en situation d'emploi. Parce que c'est là qu'ils inventent le plus. Voilà. Nous disons qu'il faut développer une économie qui reposerait sur ce modèle dans le bâtiment, dans la mécanique, dans l'alimentation, dans le soin. Je donne des exemples dans l'énergie qui sont très concrètement développés en ce moment en Seine-Saint-Denis.
Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en application, vos expérimentations?
Alors d'abord, nous travaillons à développer une économie de lutte contre l'entropie. Nous disons l'enjeu de l'anthropocène, c'est l'entropie. Anthropocène, on pourrait l'écrire avec un E et sans H. Voilà. C'est une augmentation de l'entropie. Non, c'est sans H, justement. Là, c'est un E et pas de H. Aujourd'hui, ça s'écrit anthropocène avec, ça vient de anthropos avec un A et un H. Mais on pourrait dire c'est d'abord une augmentation des taux d'entropie de l'anthropocène. Si on veut décrire ça scientifiquement, c'est la seule manière de le décrire correctement. Voilà. Des trois formes d'entropie que sont l'entropie thermodynamique, c'est-à-dire le changement climatique, par exemple, l'entropie biologique, la destruction de la biodiversité, et l'entropie informationnelle, la post-vérité et la crétinisation de masse, parce que c'est ce qu'on est malheureusement en train de vivre aujourd'hui. Alors, lutter contre ça, ça veut dire qu'il faut faire que l'économie soit vouée à produire de la négentropie, à lutter contre l'entropie. Ça veut dire qu'il faut déprolétariser les activités, parce que l'industrialisation, ça a été une prolétarisation, et la prolétarisation, c'est la standardisation des modes de production. Marx disait en 1848, un prolétaire n'a aucun savoir. Il n'a pas besoin de savoir, il n'est là que pour servir une machine avec sa force de travail. Vous ne pouvez pas être un acteur ou un écrivain si vous n'avez pas de savoir, voilà. Mais vous ne pouvez pas être un bon médecin non plus, vous ne pouvez pas être un bon avocat, vous ne pouvez pas être un bon artisan non plus si vous n'avez pas de savoir. Et pour lutter contre l'anthropocène, il faut trouver des nouvelles façons de construire. Par exemple, construire des bâtiments beaucoup plus satisfaisants sur le plan thermique ou sur le plan de l'isolation. Il faut trouver des formes d'alimentation qui sont bien meilleures, bien plus économes, moins carnés, etc., etc. Bref, tout ça, ça veut dire réinventer des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs conceptuels au 21e siècle. C'est à ça que nous nous employons. Et donc, c'est comme ça, tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui sont intoxiqués par les smartphones. Nous sommes en train de créer une communauté de parents qui se soignent mutuellement. Et ce soin mutuel, eh bien, nous pensons qu'il faut le développer au service d'une économie contributive du soin, où les parents pourraient être des intermittents du soin, voilà, par exemple. Ça va très loin, ça. On est en train d'avancer, c'est le projet le plus avancé, ça donne des résultats extraordinairement intéressants. On travaille aussi en ce moment sur comment repenser complètement l'industrie du bâtiment, non pas pour remplacer les ouvriers qui ne sont en fait pas des ouvriers mais des manœuvres par des robots, mais pour faire que oui, il y a des robots, mais pour que ces manœuvres deviennent de vrais ouvriers pour produire par exemple avec de l'argile crue. L'argile crue, ça a des qualités thermiques formidables et ça nécessite beaucoup de savoir-faire. Voilà, donc on peut revaloriser énormément de métiers en développant cette économie contributive. Ça, ce sont des questions passionnantes qui m'ont amené à travailler avec des grandes banques, une banque publique et la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi la Société Générale, le Crédit du Nord, pour repenser complètement la comptabilité nationale, la comptabilité des entreprises. Et à partir de là, finalement, tous les modèles de ce qu'on appelle les indicateurs économiques, à partir d'un modèle qui n'est pas la physique de Newton, ça c'est le modèle qui existe aujourd'hui, mais qui est la physique thermodynamique et plus généralement la négantropie biologique et les questions de ce que j'appelle la négantropologie, c'est-à-dire la lutte contre les effets toxiques que l'humain produit sur la biosphère.
Ce genre de discours, quand vous discutez avec vos partenaires, vous mentionnez des banques, mais vous travaillez aussi avec des gens comme Orange, Dassault Systèmes, Danone, des gros industriels. Est-ce qu'ils entendent ce message ? Est-ce qu'ils comprennent ?
Bien sûr, c'est pour ça qu'ils nous accompagnent. Si vous voulez.
Mais est-ce que c'est pas plutôt un moyen pour eux de se donner une bonne conscience en œuvrant pour le progrès social ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, bien sûr que ça peut être ça. Ça peut être ça au départ. Mais ça a été ça très souvent, que les grandes entreprises financent des choses, voilà, dans le cadre de la RSE, comme on dit, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, pour se donner un alibi, je dirais. Oui, ça existe, bien entendu, c'est encore majoritaire d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de grands industriels se posent des questions sur la solvabilité à terme et à relativement court terme, en fait, de tout le système. Et ils savent très très bien qu'il faut inventer autre chose. Et nous, nos partenaires, c'est d'abord les habitants. Moi, je travaille avec des habitants, avec des parents, avec des enfants, avec des profs, avec des médecins, avec des infirmières, avec des puéricultrices, avec des PME du bâtiment, avec des recycleries, etc., etc. Et nous travaillons aussi avec des grands groupes. Pourquoi ? C'est parce que nous disons, vous avez vu peut-être le film Demain de Cyril Dion. Bon, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les territoires en transition, qui travaillent, alors qui développent localement des tas d'initiatives très intéressantes. Mais le problème, c'est qu'elles ne passent pas l'échelle. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la localité, elles ne peuvent pas se déterritorialiser. Et du coup, elles ne se généralisent absolument pas. Donc, elles deviennent là, du coup, des espèces de villages gaulois qui résistent à l'entropie, mais sans être capable de changer le reste de l'économie. Nous disons que c'est toute l'économie qu'il faut changer. Mais il faut la changer progressivement. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons proposé à l'ONU, nous sommes en discussion en ce moment même avec l'ONU, pour développer ce qu'on a fait en Seine-Saint-Denis. Eh bien, on voudrait le faire avec des pays du monde entier, et dans toutes sortes de pays du Sud en particulier, faire ce que nous appelons des territoires laboratoires. Nous développons une démarche qui s'appelle la recherche contributive. La recherche contributive, c'est une recherche qui consiste à faire travailler des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des juristes, des économistes, avec des habitants. Et ces habitants, on les forme à faire de la recherche, véritablement. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller très vite. On est dans une situation d'extrême urgence. Je viens de créer, moi, une association qui s'appelle l'Association des Amis de Greta Thunberg, voilà, avec Jean-Marie Le Clézio, qui est prix Nobel de littérature, et une dizaine ou une quinzaine de scientifiques et d'artistes de très grand renom mondial. Voilà, parce que nous considérons que, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que peut dire Greta Thunberg, mais nous considérons par contre que la mobilisation de la jeunesse qu'elle a organisée, c'est quelque chose d'extrêmement important, et qu'il faut que ça devienne quelque chose de positif, et non pas une simple rébellion. Et il faut qu'on ouvre un dialogue avec les jeunesses du monde entier. en Afrique, en Inde, en Amérique latine. Je donne ces pays-là parce que j'y travaille dans ces pays-là. Et nous pensons qu'il faut créer des laboratoires pour très très vite trouver des alternatives pour développer des modèles économiques nouveaux qui soient solvables et qui ne soient pas toxiques pour la planète. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, ça s'inscrit dans une façon plus générale d'essayer de penser la place de la philosophie au milieu des autres savoirs. Je pense que la philosophie, c'est aussi ce que pensait Alfred Whitehead, qui est un philosophe que je lis de plus en plus. La philosophie a une mission synthétique. Voilà. Elle a la mission de faire en sorte que les différentes disciplines se retrouvent, non pas pour que la philosophie leur dise ce qu'elle doit faire, non, mais pour que la philosophie leur donne la possibilité de dialoguer et d'expérimenter ensemble. C'est ce que nous essayons de faire avec cette équipe qui est totalement transdisciplinaire. Pratiquement toutes les disciplines sont représentées dedans.
Vous citez beaucoup dans vos ouvrages Joseph Schumpeter sur l'innovation destructrice. Est-ce que vous considérez avec Ars Industrialis comme un promoteur d'une restructuration à l'échelle locale, dans tous ces pays-là que vous essayez de...
Schumpeter, c'est important, merci de mentionner cet auteur, qui a joué un rôle très important, parce qu'il a donc théorisé ce qu'il appelait la destruction créatrice, en essayant de montrer, c'était un peu contre Marx d'ailleurs, il essayait de montrer que le capitalisme aura toujours la capacité à rebondir, parce que il a une façon créatrice de détruire, voilà. En fait, le premier qui avait dit ça, c'était Marx lui-même, d'ailleurs. Mais ce que montrait... Marx lui disait qu'il y avait une limite à ça, que c'était la baisse tendancielle du taux de profit. Je ne vais pas développer ça théoriquement, parce que ça serait trop long. Schumpeter a répondu pas du tout. Grâce à l'innovation, au design, etc., le capitalisme est capable de toujours redégager des marges de profit. Bon. En fait, Schumpeter a travaillé avec un économiste qui était un mathématicien, qui s'appelle Nicolas Georgescu-Regan. C'est grâce à lui que j'ai découvert, enfin grâce à ses livres, que j'ai découvert Alfred Lotka. Georgescu-Regan donc faisait des mathématiques. Schumpeter l'avait recruté comme assistant pour qu'il lui fasse des équations, en fait, d'économétrie. Et Georgescu-Regan était aussi physicien et avait dit à Schumpeter, tout ce que vous dites est très fort, très puissant, très efficace, mais ça ne pourra pas durer parce que vous ne tenez pas compte de la thermodynamique. En fait, c'est grâce à Georgescu-Regan que j'ai découvert Lotka. Et moi, je reprends le discours de Georgescu-Regan en essayant d'aller un peu plus loin, parce que je trouve qu'il ne va pas assez loin dans sa critique. En tout cas, ce que nous disons, nous, c'est que la destruction créatrice telle que l'avait conçue Schumpeter, ça ne peut plus durer. Par contre, il faut repenser les capacités de créativité, de développement de nouveaux savoirs, pour faire des modèles économiques qui sont pas fondés sur la destruction, mais sur le soin. Voilà. Et on peut pas détruire indéfiniment, comme vous le savez très bien, tout le monde en parle aujourd'hui. Non seulement les ressources de pétrole sont limitées, non seulement les océans ont des capacités limitées d'absorption de carbone, etc., etc., mais il se passe en ce moment que, par exemple, toute la technologie actuelle qui se développe sur la base de métaux rares exploite des métaux qui sont en toute petite quantité.
Les terres rares,
comme on les appelle. Et donc, toutes les sources actuelles de développement sont en fait limitées et vont atteindre assez rapidement leurs limites. Il faut donc absolument développer une économie du soin, du recyclage, etc. Et alors, en développant des localités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour des raisons très précises, c'est parce que, c'est ce qu'a montré Schrödinger, la négantropie, ou l'entropie négative, c'est-à-dire la vie, ne peut se produire qu'à l'échelle locale. Voilà. On ne peut lutter contre l'entropie qu'à une échelle locale. Ça veut dire qu'il faut revaloriser la localité dans l'économie, mais par contre, il faut que cette localité soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se consolider à une échelle macroéconomique, c'est-à-dire au-delà de la localité. Pourquoi faire ? Pour ouvrir un commerce international soigneux. Voilà. C'est ça que nous essayons de réinventer. Et donc, ça veut dire qu'il faut réinventer complètement le marché aussi, mais ça veut dire qu'il faut réinventer les comptabilités, il faut tout réinventer. C'est passionnant et ça intéresse énormément tous les industriels ou les banquiers lucides. Ils le sont beaucoup plus que la moyenne parce qu'ils ont à gérer au jour le jour la guerre économique et que je peux vous dire que la guerre économique c'est extrêmement dur et donc ils sont très 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 informés sur les limites, ils ne peuvent pas le dire et c'est pas leur rôle en plus. Mais par contre, ils en sont très conscients. Après, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire travailler ensemble des habitants, des associations, des institutions locales, des acteurs économiques nationaux et internationaux pour créer une nouvelle rationalité économique avec la patience requise, ce qui est difficile parce que nous sommes en état d'urgence. Voilà. Donc c'est évidemment assez compliqué à réaliser, mais nous pensons que c'est tout à fait faisable et nous pensons que ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis est très démonstratif. J'ai organisé, à la demande du patron de Danone, qui s'appelle Emmanuel Faber, voilà, une visite, parce que il avait entendu parler de tout ça. Un jour, il m'avait invité à prendre un café. Et puis, un jour, il m'a dit, j'aimerais voir ce que vous faites sur place. Donc, emmenez-moi, je veux rencontrer les gens. Donc, je l'ai emmené. Il a passé une journée entière en Seine-Saint-Denis. Il est venu avec des gens de Sodexo et de Veolia. Et ils étaient stupéfaits de ce qu'ils ont vu. Stupéfaits. C'est pas fini du tout. On a demandé 10 ans.
Non, c'est expérimental.
Ça fait que 2 ans et demi qu'on a commencé. Moi, j'ai dit, il faut 10 ans pour, voilà.
Bien sûr, c'est sur du temps long, mais.
Donc, c'est pas fini du tout.
Est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas un problème plus profond au niveau de l'individu sur le désir, vous parliez de consommation, de.
Ben justement, si nous avons demandé 10 ans, parce que c'est la condition que j'ai posée au départ, hein. J'ai dit à Patrick Wozniak, soit tu me donnes 10 ans, soit je fais rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la représentation que les jeunes ont dans leur tête. Donc j'ai demandé 10 ans pour pouvoir travailler avec commencer avec des gamins qui aujourd'hui ont 10 ans et qui dans 10 ans auront 20 ans. Et leur faire... Vous savez, en Seine-Saint-Denis, on dit beaucoup, les jeunes, leur avenir, c'est chômage. Éventuellement, s'ils ont beaucoup de chance, ils seront peut-être bagagistes à Roissy, sauf que Roissy va automatiser tous les trucs de bagages. Chauffeur Uber, mais ils en ont déchanté, hein, les chauffeurs Uber, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font sinon? On leur dit, trafic de drogue, proxénétisme, trafic d'armes, djihadisme. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Alors, vous avez des présidents de la République, deux qui sont venus, qui ont dit, mais votre avenir, c'est des footballeurs, voilà. Mais attendez, faut arrêter. Alors, les mômes de la Seine-Saint-Denis qui souffrent beaucoup, hein, beaucoup. De discrimination, d'abandon, etc. Il faut changer leur représentation de leur avenir. Moi, je travaille en ce moment avec l'éducation nationale, le rectorat de Créteil, dès la sixième, avec des tout jeunes gosses pour leur montrer qu'ils peuvent s'approprier la révolution industrielle du bâtiment et devenir les futurs acteurs de cette révolution industrielle, tout petits, avec eux, leurs profs, la FCPE, c'est-à-dire...
Alors qu'on sait que tout est en train de s'automatiser, que dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de choses...
Oui, mais l'automatisation, on peut la renverser. On peut s'en emparer pour faire de la très haute qualité environnementale et ne pas en faire un malheur, mais au contraire, la chance de réinventer une économie de la négantropie. Et ça, on est en train d'y travailler aujourd'hui avec les mômes de 10 ans. Dans 10 ans, ils auront 20 ans, et ils n'auront pas du tout la même représentation de l'avenir de la Seine-Saint-Denis que les mômes d'aujourd'hui, qui ont 20 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé 10 ans. Et on dit la même chose à l'ONU en ce moment. Donc, les générations actuelles sont en train de se mobiliser. Voilà. Alors, c'est surtout les générations, je dirais, urbaines, plutôt favorisées, hein. Parce que quand on va voir qui sont les jeunes qui se mobilisent sur le climat, par exemple, on dit, c'est pas tellement les mômes de la Seine-Saint-Denis. On voudrait que ça change. Et on voudrait que ça change, non pas pour qu'ils se mobilisent pour tout casser, mais qu'ils se mobilisent pour changer l'économie. Et la changer positivement, patiemment, rationnellement. Et ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de leur apporter les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, les meilleurs spécialistes de la comptabilité aussi. Nous travaillons avec les services de comptabilité des grandes banques. Voilà. Et je peux vous dire que ces gens-là sont extrêmement compétents et que la comptabilité, c'est un savoir très, très, très complexe. Maintenant, il faut en changer les axiomes. Voilà. Et pour le faire, il faut être patient. Il faut avoir l'humilité de discuter. Moi, je discutais avec des chefs d'agences de banque, etc., pour voir très concrètement comment une économie de ce type peut se développer dans leur périmètre, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à Aubervilliers. Et c'est très passionnant. Quand on travaille comme ça, les gens reprennent vraiment de l'espoir. Je peux vous dire, tous ces gens avec qui on bosse dans ces ateliers disent, ce qui est génial, c'est que depuis qu'on travaille avec vous, on a repris de l'espoir.
Puisque c'est aussi l'exercice de la voix nue, j'aimerais savoir en quoi votre vie personnelle, vous êtes père et grand-père, vous avez, il me semble, 6 petits-enfants. Oui. Est-ce que, pour vous,
7
petits-enfants, est-ce que vous discutez aussi avec eux, comment ça peut aussi configurer votre rapport à la jeunesse et à l'avenir?
Ça, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Je ne suis pas un très très bon grand-père. Même si de plus en plus je réfléchis à cet art d'être grand-père dont parlait Victor Hugo, que je cite d'ailleurs dans mon prochain bouquin. Je raconte dans un de mes livres, l'avant-dernier livre, qui s'appelle « Dans la disruption », qu'un jour, c'était en 1993, j'ai eu une discussion avec mes deux premiers enfants, qui maintenant sont des adultes. Barbara, aujourd'hui, a 48 ans. Julien, 45 ans. Il aura 45 ans la semaine prochaine. Ils ont donc des enfants, donc je suis grand-père. Nous avions à cette époque-là, ils étaient encore jeunes. Barbara avait 22 ans et Julien 19 ans. Et ma fille Barbara, elle était normalienne à l'époque, m'avait dit, mais quand même, pourquoi es-tu si sombre tout le temps? Alors je lui avais répondu, maintenant toi et ton frère, vous êtes des adultes. Donc je vais vous dire ce que je pense depuis longtemps. Et donc je leur ai raconté que quand j'ai quitté la prison de Muret, j'ai été libérable, comme on dit, j'avais fait 5 ans de prison, et il se trouve qu'un de mes amis, qui s'appelle Jean-Luc, en prison, j'avais pas beaucoup d'amis en prison, mais lui c'était un ami, était libérable comme moi, une semaine près. Et j'avais essayé de lui expliquer que la sortie allait être plus dure que d'entrer en prison. Ça serait plus dur de sortir. Et surtout qu'il fallait savoir que le monde allait empirer énormément. Que les problèmes... Moi, j'avais appris ça en prison. Que le monde allait vers vraiment de très, 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 très gros problèmes. Voilà. Et que ces très, très gros problèmes, j'avais acquis la conviction qu'ils pouvaient conduire vraiment à une autodestruction de l'humanité. C'est ce que je crois toujours aujourd'hui. Si vous prenez toutes les projections scientifiques qui sont faites aujourd'hui, ce qu'il y a de plus probable, c'est la fin de la vie sur Terre à une échéance assez courte. Quand je dis assez courte, je dis pas que c'est dans les 30 ans qui viennent, mais à échelle d'un ou deux siècles. La vie, c'est ce qui produit des résultats absolument improbables par des processus qui, vu de l'intérieur du système qui les produit, ne peut se présenter que comme des miracles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas arriver. Ce sont des bifurcations de ce type qui sont incalculables par le système qui les produit. Donc aujourd'hui, il faut que nous arrivions à produire une bifurcation incalculable. À une autre époque, on aurait appelé ça un miracle. Moi, je ne crois pas au miracle. Par contre, je crois qu'il est possible de produire de telles bifurcations, mais il faut être capable d'avoir le courage d'admettre qu'elles sont très improbables. Donc le plus probable, c'est la destruction. Alors j'ai raconté ça à mes enfants, parce qu'ils étaient adultes, et je me suis dit, il ne faut pas leur raconter l'histoire.
On va se quitter malheureusement sur cette note d'optimisme. Merci Bernard Stiegler de nous avoir reçus toute cette semaine chez vous. Au revoir, merci beaucoup.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Céline Lauzon avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.